Voilà, eh bien, on va ensemble ouvrir la parole de Dieu, qui est merveilleuse, cette parole qui vraiment sait nous conduire, sait nourrir notre âme, sait nous montrer la voie à suivre, sait aussi nous convaincre, voire nous corriger. Que Dieu soit béni. On va ensemble ouvrir le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27 des Actes des Apôtres. Chapitre 27 des Actes des Apôtres. Tout ce chapitre rapporte le naufrage du bateau sur lequel l'apôtre Paul était, emmené à Rome en tant que prisonnier, puisqu'il en avait demandé à César. Et tout ce chapitre 27, qui est assez long, raconte les détails de ce voyage très mouvementé, de la dérive de ce bateau, et voilà comment ils s'en sont sortis. Et cela est vraiment porteur d'une instruction. Alors, on ne va pas lire en entier ce chapitre 27. Paul est parti de Césarée pour aller à Rome. Il est prisonnier, les soldats romains l'encadrent, et il a pris un premier bateau de Césarée jusqu'au sud de la Turquie actuelle. Et puis après, c'est là que ça va se compliquer avec le second bateau, eh bien, ils vont connaître des turbulences. On va lire à partir du verset 6 ensemble. Verset 6. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de notre propre main les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète. afin d'éviter ce péril et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. On va s'arrêter ici, notre lecture. Le récit continue jusqu'à la fin du chapitre, donnant tous les détails. Nous pourrions être étonnés d'avoir autant de détails, et on peut se poser la question, mais pourquoi tous ces détails sont écrits dans la parole de Dieu? Ces détails ont leur importance, ils sont rapportés. On y voit aussi la main de Dieu, le secours de Dieu dans une situation périlleuse, dangereuse, où tout est là pour que le navire soit englouti par les flots et qu'ainsi le parcours de Paul soit inachevé, qu'il ne puisse pas comparaître devant César, qu'il ne puisse pas témoigner devant César. Et nous savons même que son témoignage devant César va porter du fruit, puisque même il est écrit dans la parole de Dieu que parmi la maison de César, certains crurent en Dieu. Donc on voit que la mission va pouvoir se continuer parce qu'il y a la main providentielle de Dieu qui veille sur non seulement sur l'apôtre Paul, mais il y a aussi d'autres personnes sur ce bateau. Donc Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre au-delà de ce que nous ne pouvons pas voir. Dieu est à l'œuvre alors que parfois ce sont les heures les plus sombres de notre vie. Dieu contrôle tout, nous le savons. Il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. En analysant la dérive de ces bateaux, ses raisons et ses conséquences, cela va nous aider à comprendre pourquoi nous pouvons partir parfois en dérive et faire naufrage dans nos vies. Il est écrit dans ce passage au verset 15 que le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Il n'y a ainsi plus rien à faire. Ils se sont laissés aller à la dérive. Un bateau à la dérive se laisse emporter au gré des courants, au gré des vents, sans pouvoir lutter contre ces éléments naturels, contre les courants, contre les vents et les vagues, tout ce qu'il peut y avoir. Donc il part à la dérive sans savoir où le bateau va finir. Mais curieusement, malgré ces vents, malgré ces courants, malgré ces vagues, le bateau va finir par échouer sur l'île de Malte. Et nous connaissons la proximité de Malte par rapport à l'Italie où doit se rendre l'apôtre Paul. Un bateau donc à la dérive. Et nous pouvons nous aussi être à la dérive. Dans notre vie, nous pouvons être à la dérive. Je ne parlerai pas ce matin des dérives doctrinales. Ce serait un sujet fort intéressant et l'apôtre Paul aborde ce sujet dans Éphésiens chapitre 14, verset 4. Non, excusez-moi, chapitre 4, verset 14. Il dira « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. » Donc on voit ici, il y a cette image d'être emporté par tout vent de doctrine flottant et emporté. Donc on pourrait parler des dérives doctrinales, mais ce ne sera pas mon sujet ce matin. J'aimerais surtout mettre l'accent sur la dérive de notre vie tout simplement. La dérive de notre vie, la dérive de nos projets, la dérive de nos actions, de tout ce que l'on a pu construire, parce qu'à un moment, il s'est passé quelque chose dans notre vie et que nous avons été emportés. On va essayer d'analyser comment ils en sont arrivés là. Comment ils en sont arrivés là? Ce n'est pas n'importe qui. On a affaire à des hommes qui connaissent la mer. Ce sont leurs métiers. Ces hommes-là ont été formés pour cela. Le capitaine du navire, le patron, savent ce qu'ils font. Ils ont la responsabilité de la cargaison ainsi que des passagers qui sont sur ce navire. Ce sont des hommes qui connaissent bien la Méditerranée. La Méditerranée peut être très tranquille, mais nous le savons, la Méditerranée est une mer aussi qui peut être très capricieuse, voire dangereuse. Mais ils le savent, ils connaissent cette mer, et c'est leur lieu de navigation, c'est un navire marchand, ils ont l'habitude eh bien, de parcourir cette mer de long en large, d'ouest en est, de nord au sud. Ils ont l'habitude. Le problème n'est pas là. De plus, il nous est dit que la mer devenait dangereuse au verset 9, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Cette époque, c'est à environ la mi-octobre. L'automne a commencé et déjà, la mer n'est plus comme au mois de juillet, comme au mois d'août, elle n'est plus aussi calme. Donc la mer devient dangereuse. Et là, quelque part, il y a une anomalie. Ces hommes qui connaissent la mer, ces hommes qui ont été formés, ces hommes qui connaissent bien la Méditerranée, savent bien que l'époque n'est pas propice à la navigation. Ça aurait dû les faire réfléchir. Il y a là donc un avertissement, j'allais dire, qui est tout à fait naturel. Et puis, il y a l'avertissement inspiré de Paul. Paul va leur conseiller de ne pas prendre la mer, de rester. Il dira donc que si ils prennent la mer, ça ne se fera pas sans péril pour la cargaison et pour le navire. Alors, il y a le conseil de Paul, mais Paul est prisonnier sur ce bateau. Sa parole n'est pas écoutée, sa parole est méprisée. Et ils sont partis. Ils sont partis. Pourquoi sont-ils donc partis? Pression économique. C'est un navire marchand. Et pour rentabiliser au maximum, ce navire, ils ont pris en plus des passagers. Vous voyez, des fois, on veut rentabiliser au maximum. Et si vous allez dans certains pays, il en est de même pour les camions poids lourds qui sont chargés de transporter de la marchandise d'une ville à une ville. Mais pour rentabiliser au maximum, ils prennent en plus des passagers. C'est pour ça que dans certains pays, en plus de la cargaison, vous voyez des hommes, des femmes au-dessus, assis sur les camions, comme ça. Hein. Ceux qui connaissent ces pays le savent très bien, ils pourraient le confirmer. Ainsi, vraiment, là, le transport est rentabilisé au maximum. Il y a là donc une pression économique énorme. Ils sont poussés par cette pression économique, il faut rentabiliser, il faut arriver à tout prix. Je crois que quand notre vie connaît une pression économique, financière, que c'est ça qui dirige notre vie, que c'est ça qui va nous motiver à prendre telle ou telle direction, nous faisons déjà fausse route. Nous faisons déjà fausse route. Ils ont fait fausse route déjà par la pression économique, surtout avec la pression du temps. Il faut se dépêcher. L'époque du jeûne est passée, il y a là, et plus vite ils seront arrivés, mieux ça sera, ils pourront avoir leur argent, mais ils finiront par tout perdre. Le temps qui passe, avec cette pression économique, on fait que ces hommes qui connaissent bien la mer n'ont pas, j'allais dire, déjà usé de bon sens, ni écouté l'apôtre Paul, et sont quand même partis. Réfléchissons bien à ce que nous faisons. Puissions-nous nous poser devant le Seigneur et réfléchir à nos voies. Mardi soir, la réunion de prière de mardi dernier, nous avons parlé sur le sujet de méditer, et il est important pour nous de méditer nos voies, tout en sachant que celui qui contrôle toutes choses est notre Seigneur, que Dieu soit béni. Ils ont été indifférents à l'égard des avertissements de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est prisonnier sur ce bateau et sa parole est méprisée. Le centenier, c'est-à-dire l'officier romain qui a la responsabilité des prisonniers qui sont sur ce bateau, a préféré écouter le pilote et le patron du navire. Il se dit en lui-même, bon, Paul, c'est un prisonnier, il n'a pas le droit à la parole. Bien sûr, il nous a dit ça, mais le pilote et le patron sont quand même des hommes de la mer, ils connaissent leur métier, et il a préféré, surtout qu'il est même dit que la plupart firent d'avis de quitter cet endroit pour atteindre Phénix. Donc, la majorité de ceux qui étaient sur ce bateau, tout le personnel de ce bateau, ont été d'avis de quitter ce port-là pour aller atteindre Phénix. Donc, ils n'ont pas écouté cette parole qui était pourtant inspirée de l'apôtre Paul. Quel impact la parole de Dieu a sur nous. Et, Seigneur, il est celui qui nous accompagne. Il est fidèle. Il est présent, même quand nous prenons une mauvaise direction. Même lorsque nous faisons des mauvais choix, il est celui qui est présent et il nous adresse des avertissements d'une manière ou d'une autre. Que faisons-nous de sa parole? Que faisons-nous des avertissements? Parfois, il est triste d'avoir des nouvelles de certaines personnes que nous avons connues, que nous avons conseillées, à qui nous avons donné même parfois des avertissements et qui n'ont pas écouté. Et nous apprenons quelques années plus tard, malheureusement, que ces personnes ont fait naufrage dans la vie. Leur couple a fait naufrage. Leur famille a fait naufrage. Ils ont parfois même tout perdu, se retrouvent sans rien. Tout ça parce qu'à un moment, ils n'ont pas su être attentifs. Ils n'ont pas su croire à la parole qui leur avait été donné, et ils n'ont pas voulu obéir dans la foi à cette parole qui leur était adressée. Est-ce que la parole de Dieu est prisonnière de nos envies, comme Paul était prisonnier sur ce bateau? Peut-être qu'il y a là nos envies, nous avons la parole qui est là, mais il y a quelque chose de plus fort. Là, il y avait la pression économique, la pression du temps. Mais parfois, il y a tout cet environnement qui est là autour de nous. Il y a ce qui est en nous, nos désirs, il y a nos envies qui sont là. Oui, bien sûr, nous écoutons. Oui, bien sûr, il y a la parole. Mais nos envies sont parfois plus fortes et nous poussent dans une direction que le Seigneur ne souhaiterait pas pour nos vies. Aussi, nous voulons demander au Seigneur qu'il nous donne toute sa sagesse. Mais puissions-nous la demander avec foi? Lisons encore, relisons. Dans Jacques chapitre 1er, verset 5. Jacques chapitre 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. On a encore cette image-là de la dérive d'un homme qui est poussé de droite et de gauche par les flots de la mer, au verset 6, semblable aux flots de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Voilà la vie de quelqu'un qui demanderait la sagesse à Dieu et qui doute. Et Jacques de rajouter, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, qui change constamment d'opinion, qui change constamment de direction. C'est le dernier parlé qui a raison. J'aimerais vous dire que le premier et le dernier, c'est quand même le Seigneur. Alors, si vous voulez écouter le dernier, il faut écouter le Seigneur. Et ainsi, on est sûr de ne pas se tromper. On est sûr de prendre la bonne direction. Au gré de ce que l'on peut entendre de droite et de gauche, on reçoit parfois des conseils qui sont totalement différents les uns des autres. Un coup, on va à droite, un coup, on va à gauche. Il y a un tel qui dit ça, on va dans cette direction. Puissions-nous nous arrêter un instant et demander la sagesse au Seigneur, méditer sa parole et dire « Seigneur, maintenant, dirige ma vie. Donne-moi une parole. Que la parole de Dieu puisse avoir un impact dans notre vie. Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous pousse toujours plus? Aller dans une direction qui ne va faire que notre vie va connaître un échec et va échouer. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive? Une quatrième raison de cette dérive, nous la trouvons au verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurakion se déchaîna sur l'île. Un léger vent du sud. Ah, cet agréable vent du sud. Nous sommes après l'époque du jeûne, c'est-à-dire mi-octobre. Il y a la fraîcheur de l'automne qui est déjà là. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien! Un vent du sud qui vient nous réchauffer. Léger en plus. Ah, c'est agréable, hein? Là, pour l'instant, le vent du sud, on a notre dose, hein? Mais au mois d'octobre, on va apprécier ces petits souffles légers sud-là, chaud, hein? Il n'est pas fort. Juste ce qu'il faut. En plus, il vient du sud. C'est-à-dire qu'il va pousser le navire pile là où ils veulent aller. C'est-à-dire en Italie. Ils vont rejoindre la Grèce, la mer Adriatique, et arriver en Italie, à Rome. Super. C'est tout ce qu'il nous fallait. Super. Fausse confiance. Se croyant maître de leur dessein. Ce léger vent du sud les a induits encore plus en erreur. Et ils se sont crus maîtres de leur dessein. Allez, on y va! Fausse confiance. Et c'est très curieux, c'est parce que quand nous prenons une mauvaise direction, on a l'impression au début que tout va bien. Vous voyez, on va dire même aux autres qui nous avaient conseillé de ne pas le faire, « Ah, vous voyez bien, ça va dans le bon sens. » Fausse confiance. Là, le verset 14. Ça, c'était pas prévu au programme. C'était pas prévu au service météorologique de l'époque. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurakion. Ce vent n'est pas méconnu. Ils connaissent ce vent. On l'appelle. Les marins connaissent ce vent-là. Ils le savent que ce vent-là est dangereux. Ils sont quand même partis. un vent impétueux qu'on appelle Eurakion se déchaîna sur l'île. Et là, il n'y avait pas les moteurs à l'époque, hein. C'était la voile. Et ils n'ont pas pu lutter contre cela, et à partir de cela, on voit le verset 15, ils se sont laissés aller à la dérive. Après cette apparence réussite, que ça va dans le bon sens, il y a ces imprévus que Dieu connaît. Et il avait inspiré l'apôtre Paul pour le dire. Il y a ces imprévus qui arrivent dans notre vie que Dieu, parfois seul, connaît. On n'a pas voulu écouter le Seigneur et on y a pensé, mais on s'est même enhardi de continuer parce que les choses allaient bien, tout allait bien au commencement, ça allait bien. Et ça nous a induit en erreur une fausse confiance, peut-être même que le diable en a rajouté aussi pour inspirer en nous cette fausse confiance et pour nous dire dans nos pensées, ah, tu vois, ça marche, ça fonctionne bien, tu as bien fait de prendre cette direction, tu vas gagner du temps. Nous ne maîtrisons pas tout. Nous ne maîtrisons pas tout. Il y a des événements qui arrivent que nous ne maîtrisons pas. Notre vie est-elle en notre pouvoir? Ils se sont crus maîtres de leur destin, mais notre vie est-elle en notre pouvoir? Non, elle n'est pas en notre pouvoir. Et nous l'apprenons parfois à nos dépens. Nous le savons puisque la parole de Dieu nous le dit. Mais parfois il faut le vivre pour le réaliser vraiment, et dire, Seigneur, cette fois-ci, je me soumets, je soumets ma volonté à la tienne. Dans le livre des Juges, il y a un homme aussi qui a été pris par cette fausse confiance, c'est Samson. La vie de Samson, quand je lis la vie de Samson dans la Bible, à chaque fois j'ai envie de pleurer. C'est triste. C'est triste de voir cet homme qui était rempli du Saint-Esprit, saisi par le Saint-Esprit. Et au chapitre 16, verset 20, il nous est dit de Samson, elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Elle est endormie, Samson. Hein. Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quelle tristesse! Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Ah, fausse confiance. Il est sûr de lui, Samson. Hein. Mais qui lui donne cette force? Samson n'a pas eu cette force parce que tous les jours il s'est entraîné dans le club de sport du village. On a l'habitude de représenter Samson comme une armoire à glace, mais rien nous dit dans la Bible que c'était un homme musclé. Par contre, ce qui est écrit dans la Bible, c'est qu'il était saisi par le Saint-Esprit. Et quand il était saisi par le Saint-Esprit, il pouvait faire des exploits qu'un homme ne peut pas faire. Mais ça, il le devait au Seigneur qui le saisissait de son esprit. Il ne le devait pas par sa propre force, mais c'était une grâce de Dieu. Seulement Samson, un homme sensuel, s'est laissé séduire. Il avait déjà fait des rives à ce moment-là, il avait déjà fait des rives. Sa vie était en dérive complète. Je m'en tirerai comme les autres fois. Voilà un homme qui est rempli de lui-même. Voilà un homme qui pense que sa force vient de lui. Mais ce qu'il ne sait pas, et c'est encore plus triste, c'est que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est triste de ne même plus réaliser que Dieu n'est plus avec nous. C'est triste d'en arriver là, de ne plus sentir en nous-mêmes, de ne plus réaliser que le Saint-Esprit est attristé, voire éteint en nous. Parce que nous nous sommes obstinés dans une direction qui n'est pas celle de Dieu et que nous avons été remplis de nous-mêmes de cette fausse confiance. Il est temps. Il est temps de se poser, de s'arrêter et d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Les résultats de tout cela, eux qui étaient poussés par les pressions économiques, qui voulaient gagner de l'argent, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Eux-mêmes, d'ailleurs, verset 18, ils ont jeté la cargaison à eux-mêmes, à la mer. Il fallait alléger le bateau, vraiment. Ce qui compte maintenant, c'est de sauver sa vie. Donc, ils ont jeté la cargaison, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus le contrôle sur rien. Ils n'ont plus la force de lutter. Et c'est ce qui nous arrive, parfois. Plus la force de lutter. Même, il est dit au verset 20, qu'ils perdirent toute espérance. Plus d'espérance, plus aucun espoir. Plus aucun espoir de se sauver. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Ils en sont arrivés là, par leur inconscience, leur manque de sagesse. Que Dieu nous aide. Parce que dans ces moments-là, eh bien, nous n'avons même plus la force de rien faire. Nous n'avons plus la force de lutter. Nous subissons les aléas de la vie sans pouvoir résister, sans pouvoir les surmonter. Or, la parole de Dieu nous fortifie, le Seigneur nous fortifie afin que nous puissions tout surmonter, comme le dit l'apôtre Paul. Nous voulons réaliser que nous sommes dans un combat spirituel et que ce combat est énorme, intense, et que sans le Seigneur, notre vie est à la dérive, nous serons poussés par des courants qui sont plus forts que nous. Comment nous nous dirigions lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur? Nous n'avions pas la force de lutter contre le péché. C'était impossible. Et si aujourd'hui nous avons la force, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous, il nous a renouvelés. Alléluia. Ainsi, nous avons la force de surmonter. Mais lorsque nous faisons sourde oreille à la parole de Dieu, à la présence du Saint-Esprit, nous subissons. Et au bout d'un moment, nous n'avons plus d'espérance. Et nous en arrivons à accepter, à faire des choix qui nous paraissent terribles, à prendre une direction. Parfois même, on pense au suicide. Il est écrit dans le psaume 1, et ça nous l'avons lu aussi mardi soir, « La voie des pécheurs mène à la ruine ». Le pécheur, ce n'est pas simplement celui qui commet des péchés d'ordre, moral, mais le pécheur, c'est aussi celui qui n'en fait qu'à sa tête et qui n'écoute plus le Seigneur. Il est temps de réagir, il est temps de se poser et d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Aussi, un ange du Seigneur va apparaître à Pierre. Là, on a l'intervention de Dieu maintenant. Ça suffit. Il y a l'intervention de Dieu. Le Seigneur envoie son ange. Il va parler à Paul. Et Paul va reprendre la parole. Lui qui n'a pas été écouté va maintenant, reprendre les rênes. Il va reprendre la parole. Et ils vont quand même là l'écouter. Ça leur servira de leçon. Au sein de la tempête, Dieu nous parle. Nous avons parlé de Job il n'y a pas si longtemps. Mais nous voulons considérer qu'au sein de nos tempêtes, Dieu nous parle. Dans le livre de Job, à deux reprises, il est dit que Dieu a parlé à Job dans la tempête, au chapitre 38, verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Amen. Dieu nous parle du milieu de la tempête. Il est celui qui est avec nous. Que Dieu soit béni. Au chapitre 40, verset 1er, encore une seconde fois, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Parce que Dieu est fidèle. Même si nous avons pris une mauvaise direction, il vient nous chercher. Parce que nous savons qu'il est le bon berger. Laisse-t-il sa brebis s'égarer sans qu'il vienne la chercher? Il vient la chercher. Il a compassion d'elle. Aussi, le Seigneur a compassion de chacun d'entre nous. Ils auraient dû s'arrêter en Crète. L'apôtre Paul leur dit, il fallait m'écouter. Mais néanmoins, il donne maintenant un nouveau conseil. Il est temps pour nous d'écouter le conseil de la parole de Dieu. Au chapitre 46 des psaumes, le Seigneur dit ceci, arrêtez. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce arrêtez. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Arrêtez. Maintenant, il est important de s'arrêter. Et de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Et il agira. Arrêtez. Arrêtons un instant pour chercher la face de Dieu dans nos dérives et prendre le courage de lui obéir. Tout ira mieux. Même si nous avons des choix à prendre qui sont difficiles. Arrêtez. Je dis, mais les vacances vont me faire du bien. On revient des vacances. Les problèmes reviennent avec. Et c'est parfois pire. Ce ne sont pas les vacances qui arrangent les choses. Ce qui arrange les choses, ce qui arrange notre vie, ce qui nous fait repartir dans la bonne direction, c'est de s'arrêter devant Dieu. Et dire, comme l'apôtre Paul avait pu dire un jour, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Ma vie est entre tes mains. Je te demande pardon pour mes inconséquences. Arrêtez. » On n'a pas lu tout le texte, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais le bateau va se disloquer complètement. Ils vont devoir quitter le navire. Ceux qui savent nager vont nager jusqu'à la côte. Ils ont échoué près de l'île de Malte. D'autres qui ne savent pas nager vont prendre des débris de bois et arriver sur la côte. Personne ne va mourir. Ils vont perdre que le navire et la cargaison. Tous sains et saufs, comme l'avait dit l'apôtre Paul. Il nous faut quitter le navire. Là où nous nous sentons parfois si bien. Mais là où nous nous sentons si bien, c'est ça aussi qui parfois nous a amené à la dérive. S'ils ne quittent pas ce navire, ils vont couler avec. Il est important pour nous de quitter ces raisonnements qui nous ont amenés là où nous sommes, avec toute la cargaison qui va avec de raisonnements, pour suivre maintenant la voie du Seigneur, que son nom soit glorifié dans notre vie. Lui, il est monté sur la croix pour chacun d'entre nous, afin de nous ramener à la maison du Père, afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés, de nos inconséquences, de nos fautes, de nos erreurs. Il est compatissant. Il est celui qui nous donne une seconde chance. Alléluia. C'est vrai que, oui, nous avons fait dérive, parfois. Mais le pardon se trouve auprès de Dieu. Le pardon se prie auprès de Dieu. Aussi, si notre vie est en dérive, si le couple est en dérive, si la famille est en dérive, puissions-nous nous arrêter et dire, Seigneur, maintenant, nous voulons t'écouter et suivre tes traces. Amen, on va prier ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Église, que tu amèneras jusqu'au bon port, quoi qu'il arrive. Tu la tiens dans tes mains. Tu tiens ton Église entre tes mains. Tu es celui qui domine sur toute chose. L'Église, Seigneur, est battue par la tempête, mais tu es celui qui contrôle toute chose et qui saura la mener au bon port. Seigneur, merci pour ta parole. Parfois, c'est vrai que nous ne sommes pas toujours assez attentifs. Si nous t'en demandons pardon, Seigneur. Seigneur, tu connais chacune de nos vies. Là où nous en sommes, chacun d'entre nous. Seigneur, je veux te prier pour mes frères, mes sœurs, qui connaissent des temps difficiles et qui sont peut-être à la dérive, qui n'arrivent plus à lutter sur les événements qui leur arrivent dans leur vie, qui sont ballottés à droite et de gauche, Seigneur, sans pouvoir voir l'issue de leur épreuve, de leur affliction. C'est toi qui viens à leur secours, qui prends maintenant les choses en main. Seigneur, prends les choses en main, Seigneur, et viens les secourir, nous t'en supplions. Toi qui es fidèle, toi qui es le ressuscité, nous te bénissons pour ta patience à notre égard. Nous te bénissons pour ta sollicitude à notre égard. Sois glorifié, Jésus, Fils de Dieu. Amen. Amen. Amen.